L'Auberge Espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Comme son nom l'indique, on parle bien de diversité.
Mais enfin donc, vous, vous amenez en fait du rêve et du rire.
Voilà, de la poésie, de la magie.
C'est comme la littérature ou comme le cinéma, la rencontre est meilleure en fait.
Dans l'Auberge Espagnole, on parle aussi de nos différences ethniques, de nos différences sociales, c'est la notion de diversité. Et bonjour, avec une auberge espagnole, par les temps qui courent, plus virtuelle et dématérialisée que jamais, mais toujours aussi diverse. Voilà, vous avez sans doute reconnu cette musique, Michel Legrand, un célèbre tube de son deux sœurs jumelles. Alors, pourquoi ? Eh bien, en cette époque, en ces temps où les spectacles sont annulés à tour de bras, difficile de vivre, mais certains ont des initiatives et réussissent à faire des concerts isolés, sans public, et qui sont diffusés. Alors, il va y avoir toute une série de spectacles organisés par les Folies Lyriques autour de Michel Legrand. Un concert avec les musiques de films a réussi à passer entre les gouttes à l'automne. Et puis, il devait y avoir le concert du quintet de jazz de Michel Legrand. Patatrac, il n'a pas eu lieu. Et puis, la production des Parapluies de Cherbourg, si j'ose dire, est tombée à l'eau. Eh oui. Alors, pour le quintet de jazz, eh bien, nous avions en prévision, c'était juste avant, on attendait, confinement, pas confinement, puis patatrac, eh bien, nous avions interviewé Denis Leloup, un des membres du quintet, pour nous parler de ce concert, qui finalement a eu lieu, mais sans public, et qui est diffusé sur Internet. Vous en avez entendu un premier extrait. Après l'interview de Denis Leloup, on mettra un deuxième extrait, un autre tube de Michel Legrand. Bonjour Denis Leloup, vous êtes tromboniste du quintet de Michel Legrand, si on peut l'appeler comme ça. On peut l'appeler comme ça.
C'est le nom.
C'est son nom officiel. Oui. Alors, vous avez derrière vous une longue carrière. Hein. Vous avez joué avec beaucoup de monde. Hein, si je regardais sur Internet et puis sur les dossiers de presse. Hein. Vous avez joué avec Denis Badeau, Florent Cuny, Gérard Badini, Patrice Caratini, Martial Solal.
Oui.
François Jeannot pour le jazz. Et puis, on pourra rajouter Michel Petrucciani, Daniel Humer, Didi Bridgewater, Shelley Mayne, Didi Gillespie. J'arrête là. Si, Alain Jean-Marie, moi que j'aime beaucoup.
Oui.
Vous avez même participé à l'aventure de Magma au début des années 80.
Exact.
Voilà. Donc, une belle carrière. Y compris pour le cinéma, vous n'avez pas travaillé qu'avec Michel Legrand, mais aussi avec Alexandre Desplat, il n'y a pas très longtemps, d'après
oui.
ce que j'ai vu. Voilà.
Vladimir Cosma aussi.
Voilà, donc
et plein d'autres.
Vous êtes ce qu'on appelle un peu appelé un pilier de la scène musicale française depuis maintenant quelques décennies. Alors, par rapport à tous ces musiciens avec lesquels vous avez joué, Michel Legrand, en quoi il se distinguait de tous ces musiciens? Qu'est-ce qu'il avait de particulier en tant qu'homme et en tant que musicien?
Michel, donc, je l'ai connu au début des années 80, quand il est revenu en France, je crois qu'il habitait du côté de Los Angeles, et il voulait faire une tournée, c'est pour son retour en France, il voulait faire une grande tournée, il m'a contacté, j'étais tout jeune, hein, j'avais 19 ans, c'était en 1981. Voilà, et puis depuis, ben, on a travaillé ensemble sur les projets qui se faisaient en France. Et donc, on a monté ce fameux quintet. Enfin, il a voulu monter ce fameux quintet parce que c'était un amoureux de la musique de jazz. Et puis, il adorait jouer sur scène. Et en 1983, il a monté ce quintet avec lequel on a tourné beaucoup dans le monde entier. Alors, la spécificité de Michel, c'est... c'est un petit peu peut-être la mienne, c'est-à-dire qu'il aimait toutes les musiques, il était issu du monde du classique, et puis il adorait le jazz et toutes les formes de spectacles. C'est peut-être ça qui fait qu'on est...
Ce mariage entre classique et jazz, oui, il avait été élève de Nadia Boulanger, si je me souviens
oui.
bien, hein, pendant un moment.
Oui, d'ailleurs, il en avait beaucoup parlé. C'était une relation assez forte qu'il avait eue avec Nadia Boulanger, qui l'avait accueillie, qui l'avait même logée, je crois, enfin, qui l'avait aidé, beaucoup aidé.
Alors, sa musique, en France, on aime bien mettre les musiques dans des catégories. En tout cas, les mélomanes ou les organisateurs de concerts aiment bien faire ça. Je pense que du côté des musiciens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Jazz, musique classique, musique de film, est-ce que ça a lieu d'être de telles catégories avec Michel Legrand?
Non, je crois pas. Non, en fait, il avait trouvé sa voix, il avait trouvé son style, et puis lui se considérait comme un compositeur. Et d'ailleurs, il avait traversé toute la période Pierre Boulez, enfin toute cette dans les années 60-70. Il en souffrait un petit peu parce qu'il se reconnaissait pas du tout dans cette mouvance, et sur les derniers temps, il cherchait vraiment à avoir une reconnaissance en tant que vraiment un compositeur, d'où ces concertos de piano et violoncelle qu'il avait créés vers la fin de sa vie.
Oui, oui, qu'il a d'ailleurs enregistré avec lui-même
oui,
au
oui.
piano, et puis je crois que c'était Henri de Marquette qui était au violoncelle. Alors oui, cette formation classique jazz, vous l'avez aussi connue. Alors, vous débordez complètement maintenant. Vous enseignez au Conservatoire de Paris, je crois, actuellement.
Au CRR de Paris, oui, rue de Madrid. Mais j'enseigne le trombone jazz.
D'accord. Voilà. L'apport de la musique classique, c'était décisif pour vous aussi ou...
Oui, je pense que oui. Surtout pour les musiciens de jazz de l'époque, il y avait beaucoup de musiciens qui étaient autodidactes, ce qui n'est pas du tout péjoratif. Mais moi, j'ai été un des premiers avec peut-être Hervé Célin aussi d'ailleurs, le pianiste.
Qui est le pianiste qui sera là, oui.
À avoir un petit peu les deux casquettes, c'est-à-dire qu'on a eu une formation instrumentiste technique très, très forte. Et puis après, bah, comme on était amoureux du jazz, ça nous a beaucoup servi. Voilà. Et puis, une culture aussi sur la connaissance de la musique classique. C'est un mix qui était assez hors norme à cette époque-là et qui maintenant, aujourd'hui, on rencontre ça souvent chez les musiciens.
Ouais. Alors, le concert donc, qu'il va y avoir le 18, qu'est-ce que vous avez imaginé avec vos camarades de mettre au programme ?
Alors, on va jouer évidemment que de la musique de Michel Legrand. On va la jouer comme on l'a joué, comme on l'a toujours joué avec lui, avec le quintet du début des années 80, mais aussi on va revisiter un petit peu certaines choses, certaines chansons qui sont peut-être un petit peu moins connues. Alors il y aura des évidemment des chansons, enfin des airs de la musique connue, mais peut-être aussi des mélodies un petit peu moins connues, notamment celles qu'il avait écrites en collaboration avec Eddie Marnay. Et puis on va revisiter, alors je dis ce mot-là avec du bout des doigts, parce que la musique de Michel, évidemment, elle se suffit en elle-même, mais on revisite un petit peu. Il aimait ça d'ailleurs, hein, Michel, il aimait bien que les choses soient un petit peu triturées, arrangées, mais avec toute humilité et puis avec le respect qui est d'usage. Donc c'est pas du tout quelque chose de pas créatif, c'est au contraire, ça va être quelque chose d'un petit peu nouveau. Et puis comme on le connaissait tous, c'est une histoire un petit peu humaine et puis musicale.
Oui, alors tous les musiciens du quintet, même s'ils n'étaient pas faisaient pas partie du quintet d'origine, ont travaillé depuis des décennies, pendant des décennies, avec Michel Legrand, hein, c'est bien ça.
Oui. Alors, c'est François Lézot, le batteur, qui faisait partie du premier quintet en 1983. Et puis, Pierre Boussaguet, le contrebassiste, il jouait avec Michel en tournée depuis, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années. Et puis évidemment, Hervé Célin, il va prendre le rôle du pianiste de l'orchestre. Il connaissait très bien Michel. Quand il y avait des musiques de films à faire ou à jouer, c'était toujours Hervé Célin qui était appelé par Michel. Il se connaissait très bien. Et puis Claude Egea, Michel adorait Claude. Ils se sont connus il y a peut-être une vingtaine d'années. Et donc, on est tous des amis. Michel, il avait beaucoup d'admiration pour les musiciens et on en a bénéficié pendant longtemps.
Bien, alors, on pourrait terminer cet entretien avec la question je dirais, qui hante un peu tous les musiciens et tous les amateurs de musique en ce moment. Comment vous traversez cette période un peu folle que nous connaissons, surtout pour les gens de culture ?
Vous devez bien imaginer que pour nous, c'est un peu compliqué, c'est même très compliqué. Moi, personnellement, j'ai un peu une impression jamais vu de pas pouvoir exercer mon métier, si on veut parler de métier. C'est-à-dire qu'on nous interdit de travailler. Donc, c'est assez spécial. Alors, il y a des réactions, les musiciens réagissent sur la toile, il y a des concerts qui se font par Internet, mais on vit un enfermement, en fait, moral et puis physique aussi. Mais il y a quand même j'ai l'impression que personne baisse les bras, malgré la difficulté. C'est peut-être un petit peu le lot des musiciens, hein, ou des artistes en général. C'est-à-dire qu'on se laisse pas abattre, on fait avec, mais c'est vrai que c'est très, 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 très dur, hein, vraiment. On se pose la question de savoir si, finalement, on est nécessaire ou pas à la vie, tout simplement.
Oui, parce que c'est vrai que dans les discours, on affirme que vous êtes nécessaire, et puis dans les mesures qui sont prises, on dit le contraire, quasiment. Quoi.
Oui, surtout que je suis pas persuadé que le fait d'être assis dans une salle de concert avec des distances, avec des règles, on puisse, enfin, ce soit des endroits qui
à haut risque, non,
on a, qui participent à.
C'est, bon, oui.
Voilà. Bon, voilà. Surtout que j'ai quand même fait des enregistrements d'émissions de télé au Châtelet, notamment dernièrement, où on est tous là, on est un orchestre symphonique en complet, et puis ça se passe quand même. Hein. Donc c'est un peu, j'ai l'impression que tout le monde est un peu perdu avec ça, et puis que, ceux qui en font les frais, ce sont les restaurateurs et puis nous, quoi.
Voilà. Bah écoutez, on espère, là, à l'heure où nous enregistrons cet entretien, nous ne savons pas encore si la reprise des concerts va se confirmer, mais en tout cas, on l'espère très fort, pour vous comme pour le public.
Je voulais simplement rajouter une chose qui serait peut-être importante de signaler, c'est que ce projet du quintet Michel Legrand a pu se faire grâce à la bonne volonté de Macha Merrill, à qui j'ai demandé l'autorisation de faire ce projet, qui a été d'une gentillesse absolue et qui nous a dit avec plaisir, mais bien sûr, faites-le, je pense que Michel aurait été d'accord. Donc, c'est pas mal de mentionner son nom, quoi, parce qu'elle fait beaucoup.
Non, bah c'est bien, oui. Ça a été vraiment une compagne de route pendant des années, quoi. C'est,
oui, oui.
Michel
oui.
Legrand. Oui, puis voilà. C'est bien. Donc, le quintet de Michel Legrand survit à la disparition de Michel Legrand. Ça, c'est.
C'est le. Michel, je pense qu'il voulait que sa musique, elle perdure. Enfin, il espérait, c'était son vœu. Ben, moi, c'est à ma façon de faire que ça puisse continuer, parce que sa musique fait partie du patrimoine de la création française
et largement au-delà aussi.
Oui, parce qu'il a une reconnaissance mondiale, mais Michel Legrand, c'était un poste ravelien, Dutilleux, etc. quoi.
Oui, sa musique garde quelque chose de français, entre guillemets, très fort.
Oui, oui.
Bien, merci beaucoup Denis Leloup. On souhaite les plus belles aventures musicales au quintet, en espérant pouvoir vous écouter très prochainement.
Voilà, le concert le 18, si tout se passe bien.
Si tout se passe bien. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Voilà, Michel Legrand, joué par le quintet Michel Legrand, hein, même si Michel Legrand n'y est plus, avec des musiciens qui ont tous travaillé avec lui. Et là, c'était le tube d'une musique de film, hein, une musique de film qui fut un grand succès, Les Moulins de mon cœur. Voilà, alors bah, des initiatives comme ça, il y en a plein. L'Orchestre de Montpellier a les siennes aussi. Vous allez sur le site de l'orchestre et vous découvrirez plein de concerts accessibles en ligne. Et oui, c'est pas l'idéal, mais au moins ça permet aux musiciens de continuer à jouer. Et puis à nous de... Ah, c'est de la musique vivante, si, quand même. Mais bon, un peu bizarre, mais bon, voilà. Alors, ces histoires de confinement, de pandémie... ça fait pas que du mal à la culture, ça bouscule le champ du monde du travail avec le développement complètement imprévisible avant pandémie du télétravail. Hein. Dans les entreprises, avant, le télétravail, oh là là là, les employeurs, qu'est-ce qu'ils étaient réticents ! Alors maintenant, qu'est-ce qui pousse les gens à télétravailler ? Pas forcément un progrès, le télétravail, pas forcément un progrès pour les conditions de travail, pas forcément un progrès non plus pour l'égalité dans le monde du travail entre hommes et femmes, le point de vue de la CGT.
Divergence FM, l'interview.
Bonjour Sylvie Brunol, et merci d'être avec nous sur les ondes de Divergence FM. Alors vous allez nous parler de cette journée internationale de la femme du 8 mars, mais bien entendu, il s'agit de la présenter pour le syndicat, la CGT. La CGT, on a l'habitude de la recevoir régulièrement sur nos ondes. Alors, ça va me changer. D'habitude, j'ai un barbu, là. C'est pas le cas. Hein. Ah, c'est Serge qui vient, en général, nous parler de la CGT. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce 8 mars, vu du côté de la CGT ?
Alors, le 8 mars, déjà, je m'excuse, je voudrais vous reprendre.
Oui.
C'est pas la journée de la femme, ni la fête des mères ou la Saint-Valentin, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes.
Oui, je suis...
On tient beaucoup à le dire, voilà.
Vous avez bien raison, mais c'est pas la première fois que vous savez qu'on dit ce genre de bêtises. Alors, ça... Oui, je vous en prie.
Donc, la CGT, avec de nombreuses organisations en France et à Montpellier, appelle à une grève féministe pour exiger, je dirais, surtout l'égalité et la fin des violences sexistes ou sexuelles, aussi bien au travail que dans la vie.
Et puis, c'est aussi pour montrer à quel point, malgré l'évolution, hein, eh ben, y a quand même énormément de différences entre hommes et femmes dans le monde du travail.
Tout à fait. Déjà, en France, les femmes gagnent un quart de moins que les hommes. Alors, pour différentes raisons, hein. Pour des raisons, elles sont à temps partiel, elles ont des carrières plus interrompues, mais une des raisons essentielles aussi, c'est qu'elles sont cantonnées dans beaucoup de métiers à prédominance féminine, où les salaires sont bas, il y a peu de reconnaissance des qualifications.
Et on leur fait faire un peu souvent les petits boulots, comme on dit. Alors on fait faire ça, alors qu'à compétence égale, elle pourrait souvent remplacer quelqu'un qui soit du sexe masculin et elles ont toutes les compétences égales.
Donc, oui, mais déjà, rien que leurs petits boulots, comme vous dites, ce n'est pas des petits boulots comme ça, c'est des boulots qualifiés.
Bien sûr.
Alors quand je vais parler des travaux très qualifiés,
d'accord.
Infirmière, aide-soignante, aide à domicile... même agent d'entretien, on s'improvise pas agent d'entretien, et donc il n'y a aucune reconnaissance réelle des femmes. Par exemple, nous avons une profession très féminisée à 98% et de haute qualification, c'est une profession médicale, les sages-femmes.
Les sages-femmes, oui, tout à fait.
Paramédicales, elles sont en lutte. Et elles seront là, d'ailleurs, à la Comédie, je pense, le 8.
Le 8.
Pour manifester, en particulier pour leur salaire et leurs conditions de travail et les emplois.
Et leur dignité, on peut dire. Alors, ça sera à l'occasion, et là, je ne vais pas me tromper, de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes.
Voilà.
vous voyez bien, je retiens bien ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Alors, donc, avec la CGT, vous êtes là, avec d'autres organisations, j'imagine. Mais c'est quand même un peu... Moi, je suis toujours consterné de voir qu'on est en 2021 et ça avance vraiment doucement. Hein. Doucement, cette égalité, soi-disant, entre hommes et femmes, cette parité, tout ça, c'est vraiment très lent, hein, vous ne trouvez pas, comme évolution ?
Oui, c'est très long. C'est pour ça que nous, on veut l'égalité de suite, on dit toujours, dès maintenant. Mais en plus, on a l'impression que les femmes, même dans le monde entier, le disent, elles sont en grève aussi pour dire que c'est pas aux femmes de payer le prix de la crise pandémique. C'est-à-dire que la situation même s'est aggravée pendant cette crise. Alors qu'au contraire, bien souvent, c'était les femmes qui étaient les premières, on dit, de corvée. Pas de corvée, hein, de corvée, qui était au travail, et bien comme
en première ligne, on peut dire, en première ligne.
En première ligne, voilà, tout à fait, les premières lignes qui étaient là et qui ont assuré. Alors leur travail, il est invisible, mais là, on a bien vu qu'il était invisibilisé, je dirais, et bien qu'il était essentiel.
Alors, on les a vus, en effet, alors notamment dans le monde médical, hein, la CGT est très présente dans ce domaine, hein, mais c'est incroyable parce que comme si on les découvrait, vous ne trouvez pas, c'est quand même extraordinaire, comme si ces gens étaient invisibles. Et puis tout d'un coup, y a une crise, en effet, on a besoin de sages-femmes, on a besoin d'infirmières, on a besoin de techniciennes, comme vous dites, on a besoin de ces femmes. Et on les découvre, et puis vite on les oublie aussi. Là, vous avez remarqué, hein, on les applaudit pas beaucoup, hein, maintenant.
Oh, on les a beaucoup applaudis. Mais là, et puis c'est surtout le gouvernement les a complètement oubliés. Il a fait des promesses. Alors, il y a eu une certaine réévaluation pour quelques métiers à l'hôpital, mais c'est loin. On est très loin du compte. Et pour les autres, pas grand-chose, hein, parce que pour les enseignantes, par exemple, pour les aides maternelles, etc., il n'y a rien pour l'instant de plus, alors qu'elles ont vraiment des salaires très très bas. Et je dirais que ces salaires très bas, au fur et à mesure de la carrière, la discrimination s'accentue, et ce qui fait que les femmes retraitées, souvent, on les retraite de misère.
On va dire des fois misérables, hein, on peut employer le mot, hein, des retraites misérables, alors qu'elles ont travaillé toute leur vie, et puis elles ont eu des conditions qu'on fait aussi, qu'elles ne pouvaient pas, des fois elles étaient obligées de ne pas prendre un plein temps, parce qu'elles avaient les enfants à s'occuper, tout ça, c'est donc, on ne le prend pas en compte, en fait, des fois, le travail double de ces femmes. C'est terrible. Alors,
ce qui est terrible dans cette période, c'est qu'il y a le télétravail.
Oui.
Et ça aussi, c'est un vrai problème, parce qu'apparemment, en télétravail, ce sont quand même les études montrent que les femmes étaient moins bien équipées, moins bien installées, voilà, et cumulaient beaucoup plus que les hommes le travail avec les tâches domestiques et la garde des enfants.
Garde des enfants, le ménage, voilà, la cuisine. Ah, la cuisine, le ménage, garder les enfants, télétravailler. Et vous avez peut-être quatre bras et deux cerveaux, non? C'est ça, non?
Voilà, tout à fait. Et voilà. On ne sait pas quand est-ce qu'on dort et quand est-ce qu'on a du temps pour soi. Et puis, je vais le redire, qu'on est correctement payé pour tout ça.
Oui, et puis vous avez parlé de ces retraites. Alors les retraités, avec un E, hein, les retraités, dès que leur mari, par exemple, décède, hein, c'est dramatique. On ne leur donne plus rien. Là. Moi, je connais des cas.
On leur donne encore une pension de réversion.
Oui, 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 oui.
Et d'ailleurs, cette pension de réversion, même si elle n'est pas souvent, ça donne une pension parfois de misère à celle qui n'avait rien, mais c'est mieux que rien parce qu'on se rend compte que les différences de retraite entre les femmes et les hommes en France, c'est 40%. Et je crois qu'avec 40%, le droit direct, mais avec la pension de réversion et des droits familiaux, ça permet de diminuer cet écart. Je ne sais plus, je crois qu'il est... Ouais. Je dirais peut-être une bêtise, mais...
Il est moindre.
Il est vraiment moindre.
Oui. Eh bien, écoutez, il nous reste à peu près 2 minutes pour cette interview. Bien entendu, l'interview, c'est rien. Ce qui est important, c'est le 8 mars de se mobiliser auprès de ces femmes et puis de montrer la solidarité qu'il peut y avoir aussi des deux côtés. Hein. Ce n'est pas une manifestation de femmes, c'est pour les femmes, nous sommes bien d'accord.
Oui.
Parce que c'est, il y a beaucoup de gens qui prennent conscience, notamment dans les organisations syndicales. Hein. Nous avons notre Serge Gazaki qui vient nous voir souvent. Il parle souvent des femmes, hein, je tiens à vous le dire. Il parle souvent des femmes en disant qu'elles sont vraiment en première ligne et qu'on les oublie et qu'on devrait vraiment faire plus attention. Donc, il y a des hommes qui pensent aussi que c'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi, hein, c'est...
Oui, tout à fait. Et puis on sent que ça progresse quand même. Nous avons des hommes féministes. Qui dit féministe dit manifester pour le droit des femmes. Et c'est vrai qu'on a quand même de plus en plus d'hommes, mais ce n'est pas encore suffisant. Hein,
Non, mais ça vient quand même. Je revois, dans le milieu étudiant notamment. Dans le milieu étudiant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui prennent conscience du problème spécifique que rencontrent leurs étudiantes à côté, les gens qui sont étudiantes, il y a encore plus de problèmes que l'étudiant. C'est quand même... souvent, c'est rajouter des problèmes aux problèmes. Mais heureusement, il y a dans notre société encore, hein, j'espère que ça durera, hein, le monde syndical. Heureusement que ça existe, hein, pour prendre les choses en main et puis mettre la pression un peu sur les pouvoirs publics, sur les patrons, sur les gens qui ont les pouvoirs de décision. Le syndicat, c'est quelque chose d'indispensable. Indispensable.
Alors, dans la CGT, c'est vrai que dans notre organisation, on a au dernier congrès, la CGT s'est déclarée comme une organisation féministe. Parce que si dans notre organisation, nous luttons, enfin, ce qu'on appelle, nous, la lutte de classe contre l'exploitation du patronat, on lutte aussi pour les droits des femmes. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. Et on a vraiment eu une avancée pour nous dans notre organisation, que notre organisation se dise féministe.
Eh bien, écoutez, Sylvie, merci beaucoup d'être à notre micro de Divergence FM. On va diffuser ça. On va demander à tout le monde de se mobiliser le 8 mars, hein, pour cette lutte pour le droit des femmes.
Voilà, donc, point de vue de la CGT, toujours aussi critique par rapport aux phénomènes de société. Merci à eux. Et puis, eh bien, nous allons terminer en essayant de se remettre un peu le moral avec toujours le quintet de Michel Legrand. Et à très bientôt pour une autre auberge espagnole. Thank you.
L'Auberge Espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Comme son nom l'indique, on parle bien de diversité.
Mais enfin donc, vous, vous amenez en fait du rêve et du rire.
Voilà, de la poésie, de la magie.
C'est comme la littérature ou comme le cinéma, la rencontre est meilleure en fait.
Dans l'Auberge Espagnole, on parle aussi de nos différences ethniques, de nos différences sociales, c'est la notion de diversité.